Dégenrer, l'émission pour déranger.
Une émission féministe les 2e et 4e mercredis de chaque mois.
De 18h30 à 20h
sur Radio Kaléidoscope
97 FM.
Bonsoir, ce soir, dernière émission de Dégenrer pour l'année, donc en présence de Amélia, Inga et Marina.
Bonsoir.
Et donc le sujet de l'émission de ce soir, en gros, c'est on vous propose Explosons le genre. Mais avant ça, on va un peu faire quelques infos sur...
Sur les squats, disons plus largement en Europe, en France et à Grenoble, parce qu'en ce moment il y a une vague d'expulsion et de répression contre les squats. Et alors pourquoi dans une émission féministe nous avons envie de parler des squats? Et ben c'est que souvent, en tout cas nous on parle surtout d'un type de squat. Qui est souvent des maisons qui sont laissées abandonnées et qui sont occupées par des groupes qui ont un projet d'habitation collective et ça dépend des cas, mais souvent aussi un projet d'activité publique. Et en fait, c'est des lieux donc, de vie collective où, par exemple, d'autres structures de base sont développées que le couple ou la famille, où ça change les rapports entre les gens, ça expérimente des nouvelles responsabilités collectives qui peuvent être assumées. Et il s'agit aussi de lieux qui, soit à l'intérieur des lieux, soit des lieux en entier, qui sont des espaces en fait, de femmes et de lesbiennes et d'activités féministes. Et aussi, ce sont des espaces qui sont marqués en fait par des recherches d'autonomie et de création de ce qu'on pourrait appeler une sorte de contre-culture, contre justement une culture qui est très normative et ce qui amène aussi des expérimentations parfois intéressantes au niveau des rapports de genre, par exemple. Et alors voilà, ça pour dire pourquoi nous on a envie d'en parler. Enfin, en plus de ça, il se rajoute que ça correspond aussi à notre aux réalités quotidiennes qu'on peut vivre personnellement. Et alors ces derniers temps, il y a eu vraiment beaucoup d'expulsions dans différents pays d'Europe. Il y a eu par exemple 9 expulsions à Amsterdam le 31 mai dans une journée, où il y a eu aussi 21 personnes qui ont été arrêtées pendant les expulsions. Toujours à Amsterdam le 17 juin, un autre squat qui a été expulsé qui était occupé depuis 10 ans, où il y avait beaucoup d'activités. À Berlin, en fait, un grand squat a été expulsé le 6 juin, qui s'appelait, qui n'avait pas de nom, c'était dans la Yorkstrasse, mais c'était une maison qui existait depuis 17 ans, avec énormément de structures collectives, des associations aussi qui avaient des lieux et tout. Ils ont été expulsés, ils n'ont plus d'espace, quoi. À Barcelone, il y a eu une expulsion le 9 juin d'un squat qui s'appelait La Hostia, qui n'était pas occupé depuis très longtemps, mais à l'expulsion, il y a eu 12 arrestations en partie assez violentes. Toujours à Barcelone, un autre lieu qui s'appelait l'Athénée Libertaire, qui a été expulsé le 13 juin et qui existait depuis 10 ans. Ensuite, pour venir en France, il y a il y a eu une expulsion à Caen d'un squat qui s'appelait La Mauvaise Herbe le 22 avril. À La Rochelle, fin mars, le collectif Pif Paf a été expulsé. Il y a eu trois squats qui ont été expulsés dans la même journée à Lille le 10 juin dans un quartier qui s'appelle Vazem, qui est un quartier assez populaire. Il y a des squats qui sont menacés d'expulsion à Montpellier, par exemple le Graou, à Strasbourg le 204, qui est un lieu occupé depuis 5 ans. À Saint-Étienne, il y a notamment Izmir, qui est une maison occupée depuis 4 ans et demi, avec énormément d'activités et qui sert aussi d'habitation, dont le procès a eu lieu aujourd'hui. Il y a aussi de nombreux squats occupés par des Roms qui sont menacés, par exemple à Saint-Étienne, à Paris.
Qui ont déjà été expulsés,
notamment à Montreuil.
Du coup, vraiment, on voit qu'il y a une espèce de vague quand même de répression contre les squats politiques qui, il ne faut pas l'oublier non plus, effectivement, s'accompagne toujours de toute façon d'une répression quotidienne contre toutes les autres formes d'occupation qui sont des occupations, de gens justes qui squattent leur maison,
qui se retrouvent dans un besoin de logement. Quoi.
Voilà, qui peuvent plus payer leur loyer, donc qui ont arrêté, qui se retrouvent du coup dans un... Enfin, tout, et ça, il y a une répression quotidienne contre des expulsions tout le temps. On n'en entend jamais parler parce que c'est pas du tout médiatisé, mais ça existe vraiment. Et moi, ça me donne envie de parler de Grenoble aussi, parce qu'à Grenoble, il y a aussi une actualité assez riche au niveau des occupations. Alors, dire que, effectivement, on entend parler des squats politisés, et à Grenoble, on en entend pas mal parler ces derniers temps, parce que, effectivement. Ne serait-ce que la dernière année, il y a eu la Loupiote qui a été expulsée en septembre, la Mordue qui était un squat féministe de femmes et de lesbiennes qui a été expulsée fin mars de 2005, le Bora Bora, l'occupation de l'IGA qui était au printemps.
Occupé le 1er mai. Ouais, et expulsé le 2 mai.
Voilà. De nombreux squats qui sont expulsables actuellement, donc c'est-à-dire qui risquent d'être expulsés hyper rapidement, comme le Résistor, qui est un squat à
Cessinet.
À Cessinet, pardon. les 400 couverts et la Boom. Et aussi des squats qui sont en procédure d'expulsion, c'est-à-dire que le propriétaire veut expulser, donc la Mèche et l'hôtel La Canaille. Alors moi, ça me donne envie de dire que le principal propriétaire de beaucoup d'entre les squats que je viens de citer à Grenoble, c'est la mairie de Grenoble.
Qui applique par là en fait sa politique de ce qu'ils appellent logements sociaux. Notamment par exemple aux 400 couverts, ils n'arrêtent pas de parler qu'ils vont construire des logements sociaux, ils se gênent pas de mentir carrément, dire que ça sera 30 logements sociaux alors que dans le projet il n'y en a que 3 au final sur les 30 et quelques logements aménagés pour personnes âgées alors que dans une plaquette ils parlent carrément de maisons de retraite, sauf que ça ne correspond pas au projet réel qu'ils veulent mettre en place.
Mais bon, voilà, là, c'est toujours pareil. Effectivement, il y a effectivement une grande communication de la ville de Grenoble sur le problème du logement, que vraiment, c'est un truc hyper important, dont ils ont conscience et tout. Alors, peut-être ils en ont conscience, mais dans la réalité, il y a des expulsions hyper souvent. Les bailleurs sociaux, c'est-à-dire les offices HLM, tout ça, il y a plein d'expulsions de logements sociaux, et on n'est même pas vraiment au courant, parce que c'est jamais médiatisé, c'est tenu hyper secret, souvent c'est même illégal. Vraiment, c'est des grands expulseurs, toutes ces institutions-là. Alors, leur discours peut paraître...
D'ailleurs, pour parler des expulsions, même si ce n'est pas vraiment un squat, le parc ou l'occupation pour protester contre la construction du stade qui... avait été occupé, ça a été expulsé, et finalement, en fait, cette expulsion-là, elle devient illégitime parce que récemment, il y a une semaine, je crois, le recours qui a été fait contre le permis de construire, et ben il a, comment dire, il a été validé dans le sens que le permis de construire a été annulé et est donc illégal. Alors cette action-là...
Que le stade est en train d'être construit en plus. Là,
ouais, en tout cas, les arbres, ils sont coupés.
C'est trop tard, quoi.
Ouais, puis moi, je voulais aussi préciser pour les maisons expulsées dont on a parlé, que la majorité, voire je crois à peu près toutes, les propriétaires, donc en général la mairie ou des offices HLM, disent pendant les procès ou au niveau du public qu'il y a des constructions urgentes, alors que ces maisons, elles sont toujours là, comme le squat de la Flibustière, comme la Mordue, comme par exemple, on peut voir aussi la Charade qui avait été expulsée à Saint-Martin-d'Air, soi-disant pour des constructions urgentes, qui est restée vide pendant 1 an et demi et qui était en terrain vague encore maintenant, et où c'est vraiment des prétextes, quoi.
Ouais, et alors dans certains de ces lieux, il y a des résistances qui s'organisent, notamment au 400 couvert. Si vous connaissez un peu le lieu et vous êtes peut-être passé, vous voyez que les maisons, la constellation des maisons change un peu pour en gros rendre plus compliqué une expulsion par la police. Et quand même, en fait, avec tout ça, il y a aussi l'idée de continuer à faire vivre ces lieux-là jusqu'au bout. Il y a vraiment cette idée, on ne partira pas, parce qu'aussi on s'inscrit dans un mouvement squat et avec l'idée aussi, plus les expulsions sont visibilisées, coûtent cher aux villes, plus ils vont hésiter à expulser. Et alors dans cette idée de faire vivre aussi le lieu, il y a un collectif de soutien qui s'est formé, qui est le Festival Permanent contre les expulsions, qui font des réunions publiques. La dernière, elle a lieu exactement maintenant, elle a commencé à 18h. Alors il y a un panneau d'information dans la traverse des 400 couverts, si vous voulez, si ça vous intéresse, vous pouvez y passer, voir la date de la prochaine réunion. Sinon ils organisent ce soir un concert et une scène ouverte au Chapitonome, et vendredi soir une boum, toujours au Chapitonome, et éventuellement, mais ça c'est pareil, tenez-vous informés, il y aura un repas de quartier plus un bal folk dimanche dans l'après-midi, la soirée dans la traverse des 400 couverts.
Tout ça si l'expulsion n'a pas lieu avant, bien évidemment, et que n'empêche pas... de continuer les activités dans ce lieu. Et un lieu dont on a parlé tout à l'heure, qui est l'hôtel La Canaille, qui existe maintenant depuis un mois ou deux, je vois plus le temps passer. donc à l'hôtel La Canaille, il y a des activités tous les mardis, et ça alterne, je crois, et mardi prochain, en tout cas, c'est une cantine populaire, donc le midi.
Ouais.
Donc il ne faut pas hésiter à passer... donc mardi prochain à midi pour manger ce que les gens auront prévu... de faire à manger, c'est prix libre. Et soyez attentifs, parce que je crois qu'ils organisent assez souvent des projections.
Ouais, et alors, juste pour donner les adresses, l'hôtel La Canaille, c'est au 26 rue des Bergers. Les 400 couverts, c'est traverse des 400 couverts qui est entre l'avenue Alsace-Lorraine et le cours Beria, près de la gare. Et alors ces expulsions, on en parle là comme ça, mais c'est dans le vécu, ça peut être relativement violent, et c'est aussi, on perd tout un lieu de vie et un projet, et on va vous lire un texte qui parle un peu de ça.
Ils ne viendront pas demain. Tu crois qu'ils viendront demain ? Le problème, c'est qu'ils peuvent débarquer à n'importe quel moment. Ils ne préviendront pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est se préparer. Barricader les portes, barricader les fenêtres, organiser les tours de garde, les tours de sommeil. Toujours garder un œil sur la rue, ne dormir que de l'autre. Tout ce qu'on peut faire, c'est se préparer. Se préparer et attendre. Attendre le petit matin, attendre midi. Attendre que le soleil se couche et qu'une nouvelle nuit passe. Et notre quotidien n'est plus que cette succession invariée d'étapes à passer pour repousser les heures. Toujours un peu plus loin, avant qu'ils ne viennent tout nous reprendre de force. Passeront-ils par les toits ? Par la porte ? Combien seront-ils ? Ça ne peut que mal finir, c'est sûr. Combien de temps vont-ils mettre pour nous sortir une par une ? Tu crois qu'ils vont gazer ? Matraquer ? Maltraiter ? Tu crois qu'ils viendront demain ? Parce qu'ils viendront, c'est sûr. Parce qu'ils ont l'ordre, la loi, le droit et le reste de leur côté. parce que c'est eux qui les font. Parce que nous, on n'a que nos rêves fragiles qui tiennent avec des éthers récupérés et des cadenas volés. On n'a que nos têtes et nos corps pour résister. Tu crois qu'ils viendront demain ? Est-ce qu'on va enfin pouvoir arrêter de penser à cette hypothétique île qui nourrit nos fantasmes, qu'on ne sursautera plus au moindre crissement de pneus, à la moindre sirène, qu'on pourra pour une fois dormir de deux yeux ? Tu crois qu'ils viendront demain ? Non, ils ne viendront pas. C'est pas possible, ils ne peuvent pas, ils ne le feront pas. On va être libre d'investir cette maison vide de nos vies, de nos envies. Libre de vivre celle qu'on s'est choisie. Libre de vivre différemment ensemble et avec les autres. Libre de ne plus attendre qu'ils viennent demain.
Voilà, c'était un texte tiré d'une brochure qui s'appelle « C'est quoi mon genre ?» et qui fait aussi le lien avec le thème de notre émission aujourd'hui. Mais avant, on va écouter un morceau d'un groupe qui s'appelle Submission Hall, qui est un groupe DIY du Canada. Et le morceau parle justement de la propriété privée et comment, en fait, on s'en fout un peu de réfléchir à quoi sert cette propriété, mais il s'agit juste d'avoir un statut dans cette société parce que quand j'ai le mien, et ben, il faut me respecter. Alors, la chanson s'appelle Blue Light Special et c'est tiré de l'album Progress. Thank you.
fille. Je suis une fille. Ou du moins, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a collé un joli F au cul, et sur mon acte de naissance, c'est sûr. C'est sûr, on a maté mon sexe à la maternité. Un petit coup d'œil rapide, et c'est parti pour toute une vie, qu'ils disent. Ça a l'air con comme ça. On mate ton entrejambe, et on te dit que tu devras mettre ton corps en valeur, être la plus belle possible, mettre des jupes s'il le faut, laisser pousser tes cheveux, être féminine, être hétéra, pondre des gosses. C'est con quand t'y penses. Un petit coup d'œil, et tu gagnes un kit à vie. Soit tu gagnes un F, soit un M. Et point barre, c'est sans compromis. Entre les deux, poubelle, chirurgie, réassignation, scalpel et point de suture. Ça arrange, disent les médecins. Et autres psychocons connes. C'est plus simple, c'est propre, ordonné. Rien à voir, laissez passer. C'est la nature qui disent. Mais moi, la nature, j'y crois pas. Je pratique pas cette religion, je me la colle au cul, la nature. On en reparlera si je la croise un jour, mais d'ici là, je mangerai sans doute les pissenlits par la racine. Et puis, elle est belle, leur prétendue nature. Quand tu choisis pour quelqu'un, quelqu'une, son sexe à coup de reconstruction acharnée, à coup de couteau, et pardon, de scalpel et d'injection dans le fessier. Tu seras une fille, mon bébé. La preuve, t'as un vagin. Et ça, c'est important qu'ils disent. Bon, ok. Le tien, c'est le médecin qui te l'a un peu bidouillé. Mais bon, sinon, on savait pas de quelle couleur décorer ta chambre. Intersexué, qu'ils ont dit. Bouh, quelle horreur! Heureusement, on sait le réparer. Sinon, oula, quel foutoir! Pas de prénom, pas de repère, pas de frontières, pas de carcan. Pas facile pour les parents. Oula, pas facile pour la machine à stéréotyper. Pas de casse pour les entre-deux. Allez les FLM, à la pouponnière. Les autres, au bloc opératoire. Tu vas voir, c'est pour ton bien. Le bien de la société hétéronormée, oui. Mon bien, mais tout le monde s'en fout. La preuve, qui m'a demandé mon avis sur cette question? Ah, c'est vrai. Je parlais pas encore. Et c'était urgent. Pas le temps d'attendre. Les robots réassignateurs t'ont déjà choisi un sexe. Et ça n'a pas été simple. C'était le chantier là-bas, en bas. Pas vraiment normal, qu'ils disent. Et puis bouh, pas beau. Pas beau du tout, même. Mais bon, je m'égare. Je suis pas passée par la case poubelle. J'avais tout ce qu'il fallait apparemment pour qu'on dise « Oh, la jolie petite fille !» Un F sur mon acte de naissance. Et j'ai gagné un kit rose. Youpi ! J'ai rien choisi. Bienvenue parmi nous. Ah le beau bébé, ah c'est une fille, oh qu'elle est mignonne, gouzi gouzi. Et hop, pacté, ficelé, envoyé ses pesées. Tu seras une femme, mon bébé. Tu choisis rien, c'est comme ça, c'est la nature qui disent. Mais oups là, bon, ok, j'ai un vagin. Mais qu'est-ce que ça change? Ah, plein de trucs. Ah ok, le sexe, ça fait qu'on a des cerveaux qui pensent pas pareil. Les F à droite, les M à gauche... Toi t'es un, et moi je suis un deux, et ensemble on doit produire un autre un ou une autre deux, en espérant que tout fonctionne bien pour elle, lui, pas d'intersexué, sinon attention chirurgie, attention punition, attention réassignation. Ah bon, alors je suis un F, un deux, alors je suis une fille, poil ou kiki, au zizi que j'ai pas. Alors je dois me résigner au complexe de castration pour accepter ma féminité, qui dit papa Freud, Sigmund pour les intimes. Oula, j'ai la tête qui tourne. Plein de trucs à savoir, à faire, à penser, à assimiler, à ne pas dire. Pour être une femme digne de ce nom, de ce titre. Faut pas déconner avec les étiquettes. Sinon, attention, peut-être t'es fou, folle, bon pour l'hôpital. Ah, on t'en donne une autre d'étiquette. C'est écrit « anomalie » dessus. Merde alors, faut pas déconner, hein. On est en société quand même. Sauf que déconner, moi j'aime ça. Je n'ai pas envie d'être une femme. Ah ben merde alors, tu veux être un mec? Eh ben non, remerde alors. T'es ni un 1, ni une 2. Comment tu vas faire? Je comprends pas. Mais pourquoi? Mais comment? Mais quoi? Mais où est donc passé Ornicard? Interrogation, point de suspension. Si je te dérange, détourne les yeux. Une mutante femelle, extrait du fanzine Mutant at Works.
Ok, donc... Eh ben, ça introduit bien le sujet de l'émission de ce soir, donc explosons les genres. Hein, donc peut-être une expression d'un ras-le-bol de devoir être d'être assigné à être un garçon ou une fille et de vouloir choisir. Donc ce soir, eh ben, on avait envie de parler d'un peu tout ça, d'aborder ces questions-là. Donc c'est pour ça qu'on avait appelé notre émission « Explosons le genre », histoire de se dire qu'on peut faire sauter peut-être ces catégories qui nous assignent dès la naissance à des sexes, enfin à des genres, et aux rôles qui vont avec. Alors peut-être notre... un genre d'idéal qu'on pourrait avoir, c'est que chaque être sur cette, enfin, chaque être vivant pourrait choisir comme il ou elle le veut, piocher dans les différentes choses, enfin dans les genres comme il ou elle le voudrait, et pas parce qu'on aurait dit c'est un garçon ou c'est une fille, quoi. En gros, c'est un peu ça l'idée, et on avait un peu envie d'aborder ça au travers de textes, porter des paroles de personnes, que ce soit des personnes d'origine transsexuelle ou des personnes qui sont dans une démarche transgenre ou des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, rompent avec la normalité des genres et la binarité, au sens où elles refusent de rentrer dans les cases qui leur sont attribuées. Et il se trouve que, ben, au départ, on voulait donc peut-être avoir une démarche un peu positive ou, je sais pas, optimiste ou... Et finalement, on se trouve qu'on a trouvé les textes qu'on a trouvés et qu'on a choisis. Ben, il y en a certains qui sont assez durs. Et je pense que ben, c'est juste l'écho d'une réalité. Et la réalité, c'est qu'il y a une véritable oppression, une répression de la société, des familles, des institutions administratives, du corps médical envers les personnes qui juste ne veulent pas ou ne correspondent pas au genre qui leur a été assigné.
Ouais, c'est ça, ou qui ne veulent pas se définir dans... C'est une des deux catégories, étant donné qu'il n'y en a que deux, bien évidemment.
Alors, quand on disait qu'on avait envie d'avoir une vision, d'aborder ça d'une manière positive, hein, c'est pas idéaliste ou naïf, hein, c'est plutôt qu'on avait envie de visibiliser aussi quand même qu'il y a des vécus de personnes qui font ces choix-là, qui sont des vécus qui sont émancipateurs, qui sont positifs, et que c'est plutôt le regard, les réactions de la société qui sont violents et qui sont trash, quoi.
Ouais, quand on dit la société, c'est l'ensemble, mais du coup, ça peut être autant ses proches, ses amis, enfin, c'est pas que les institutions ou l'État ou des personnes qu'on connaît pas, même si c'est aussi une réalité. Mais les violences, elles peuvent être vraiment diverses et à différents niveaux, quoi.
Et quotidiennes, de fait que ce soit, ça peut être l'entourage. Du coup, bon, effectivement, ces réalités qui peuvent transparaître au travers des textes qu'on va lire ce soir, ça amène un côté dur et violent, mais pour moi, c'est peut-être aussi... autant de raisons d'être en colère et de se battre aussi pour que toutes ces personnes, que tout le monde puisse vivre comme il ou elle en a envie, enfin j'en sais rien.
Et là où je pense que ça nous apportait aussi dans une démarche féministe, et ben c'est justement de pouvoir faire un lien aussi entre les mouvements là par exemple transgenres et les mouvements féministes, parce que on se rend aussi bien compte que par exemple pour les femmes, pour se conformer à qu'est-ce que doit être un comportement de femme selon la société, eh ben, la case, elle est très étroite, quoi. Et que du coup, c'est très facile de aussi transgresser... sans par exemple se réclamer d'une identité de transgenre, il y a aussi... Facilement, on se fait remettre à sa place de « mais là, c'est quoi ton comportement ? Tu te comportes pas comme une femme ?» Enfin, moi, je sais pas, c'est des trucs qui arrivent quotidiennement à moi ou des amis. Enfin, déjà, il suffit de pas avoir une sexualité hétéro, de pas avoir un comportement dit normé. Et là, on va te faire remarquer que tu te comportes comme un mec, enfin, ou tu veux imiter les mecs, et en même temps dire « non, mais attention, je te rappelle, là, toi, je t'ai identifié, t'es une femme, quoi. Retourne à ta place, c'est-à-dire écrase-toi. » Et du coup, je trouvais ça aussi intéressant de faire ce... Même si, du coup, les oppressions, elles sont différentes, elles sont à différents niveaux, mais de faire aussi un lien entre les mouvements transgenres ou féministes.
Et donc, du coup, parmi les textes qu'on vous propose d'écouter ce soir... Là, c'est un peu des textes. Donc, c'est des textes de deux femmes d'origine transsexuelle qui sont lesbiennes qui ont été donc leur interview. On les a trouvées dans un fanzine qui s'appelle
Cul comme queer et qui est un fanzine édité, enfin non, fait par le Zoo à Paris. Je crois un collectif queer.
Donc voilà, et donc c'est Karine Espinera et Maud Thomas, je crois, voilà, qui parlent, et on vous propose d'écouter un peu ce qu'elles ont à dire. Transsexualité et hétéronormativité. Le premier présupposé, c'est l'hétérosexualité. Quand je disais que, en plus d'être trans, j'aimais les femmes, évidemment, la première question qui venait, c'était « Tu deviens femme pour aimer les femmes ?» Ou éventuellement pour baiser les femmes, mais on ne me disait pas baiser, on me disait aimer. On me situait dans le registre de l'amour. Les choses ne s'arrangeaient pas quand je disais que je n'étais pas une femme féminine, féminisante. Quand je disais que j'ai une part masculine en moi et que je la vis bien. Le fait de dire que j'étais une lesbienne, cela déconstruisait une image bien propre. Puisqu'il ne faut pas parler de prostitution par exemple, ou faire preuve de singularité. En disant qu'on est gay ou lesbienne, on modifie déjà la catégorie transsexualisme.
Hors sexe. Maintenant, je vais essayer de définir l'enjeu politique du transsexualisme. Il y a la psy qui dit qu'il n'y a que deux sexes et rien d'autre. Donc nous, on est supposé être dans le rien d'autre. Grosso modo, dans le nulle part ailleurs. On n'est plus inscrit dans la communauté sociale, politique, etc. La psy définit aussi ça comme un hors-sexe, en un seul mot. On n'est plus ni dans la sexualité, ni dans la sexuation. C'est que la catégorie sexe est posée a priori. Lorsque l'on est, on a déjà un sexe. Exception faite pour les intersexuels qui, pour la plupart, ont un traitement hormonal et des opérations de conversion sexuelle pendant leur jeunesse. Si bien qu'il y a des personnes intersexuelles qui ont été dirigées dans le sens homme et qui à un moment donné de leur vie se disent « Mais non, on m'a dirigée dans le sens homme, mais je me sens femme. »
Comment faire assez trans ? Le suivi psy en France est de 2 ans minimum pour avoir un tampon authentique sur le front. C'est vraiment ça, genre vache française. Je vais caricaturer, tout en connaissant les dangers de la caricature. Mais parfois, elle est incontournable. Pendant ces 2 ans, le devenir femme doit vraiment répondre à des critères de féminité sociale. Dans la société, il faut bien se comporter comme une femme. Il ne faut surtout pas dire qu'on est lesbienne, sinon éjectée. Durant mon premier suivi à Marseille, ma psychiatre m'a dit « Pour les tests psychologiques, je ne peux pas m'avancer. À Paris, ils sont très corporatistes. » La deuxième phase que j'ai trouvée terrible, c'est « À Paris, vous serez leur création. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, être leur création ? Je ne vais pas voir mon médecin ou mon psychiatre pour être modelé.
Et il faudrait que je me plaigne. Ce que j'ai pu constater aussi, c'est la différence qui existe entre la demande avec plainte et sans plainte. La personne est là, dans le cabinet du psychiatre, pour exprimer sa souffrance. Alors, il y a mille et une façons d'exprimer sa souffrance. Soit ce que j'appelle le chantage affectif, « Donnez-moi l'opération, sinon je me suicide », soit la demande sans plainte, qui consiste à avoir travaillé sur soi, à s'expliquer. Le problème, là, c'est qu'on ne fait plus assez trans. Un exemple personnel. La dernière fois que j'ai vu mon psychiatre, je lui parlais de mes recherches, de mon roman historique. Il ouvrait des grands yeux, il était déconcerté. Il me disait « Oui, à part ça, vous faites quoi ?» Il m'a foutu dehors en me disant « Non, je n'ai pas le temps pour ça, je vous dis au mois prochain. » Ce qui m'a amené à la conclusion que je ne faisais pas assez trans. Je ne me plaignais pas assez, je ne lui parlais pas de mes problèmes. Mais bon, je ne vais quand même pas m'inventer des problèmes.
On ne peut pas branler son genre. Une petite réflexion, on peut saisir son sexe avec la main, on peut même se branler. Mais on ne peut pas saisir son genre avec la main, on ne peut que l'appréhender mentalement, émotionnellement. Autre remarque. Comment construire un homme-femme ou une femme-homme, une ou un trans, sans déconstruire l'homme et la femme ? Notre sexe est bien accroché à notre corps. Est-ce que notre genre est si bien accroché que ça ? Dans l'amour-sentiment, dans l'amour de l'attirance affective et sexuelle, vous aimez un genre social ou un sexe physique ?
patrzeć? Mam na ciele wiele tatuaży. Chodź zobaczyć. Kolczyki mam nawet tam. Chodź zobaczyć. Mam na ciele wiele tatuaży. Chodź zobaczyć. Kolczyki mam nawet tam.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Dégenré, sur Radio Kaleidoscope 97 FM. Donc ce soir avec une émission Explosons le genre.
Transgenre ? Je ne suis pas une femme, je ne suis pas une lesbienne. Transgenre ? Terme encore alien à mon cerveau. Comme de nommer une caractéristique, portée depuis longtemps, que l'on n'aurait pas su déterminer auparavant. Je n'aime pas les étiquettes, les dénominations. À tout prix coller un vocabulaire sur tout ce que l'on est capable de percevoir, que ce soit visuellement ou mentalement. Mais si je dois choisir un des mots qui existe déjà, et justement créé pour fixer un repère de plus dans notre conscience, le plus approprié serait donc le mot « transgenre », si j'ai bien compris. Étrange, étrange d'être et de vivre, de grandir sous une certaine forme, avec une personnalité mixte et une sexualité lesbienne, pendant des années, sans vraiment avoir ressenti le besoin de se référer à des définitions, qui sont comme autant de supports à une compréhension de soi, pour finalement évoluer vers une recherche de comprendre ce que contiennent ces termes que l'on utilise pour se distinguer de l'hétérosexualité. Ceci afin d'être capable de se retrouver dans l'un de ces termes. Alors là, est-ce que je suis transgenre parce que j'ai mis un mot sur ce que je pourrais développer à partir du moment où je me suis définie comme telle ? Ou bien l'ai-je toujours été sans le savoir, puisque je n'avais pas mis de nom sur tout ce que je suis ?
Voilà, et moi je voulais vous lire un extrait d'un livre de Leslie Feinberg qui s'appelle « Nous sommes tous, toutes en devenir ». Et donc Leslie Feinberg vit aux États-Unis et milite pour les droits des trans, mais aussi dans le mouvement social en général, plus ou moins la gauche radicale. Et donc il est l'auteur de nombreux textes. Voilà. Alors, c'est possible que la vue codée rose bleue des vêtements et accessoires d'enfants selon le genre te mette les nerfs à vif. Ou bien que tu sois une femme ou un homme qui se sent à l'aise dans ces catégories. Le mouvement de libération trans te défend dans tous les cas. Toute personne devrait avoir le droit de choisir entre des catégories de genre rose ou bleu ou en toute autre nuance de la palette. Au jour d'aujourd'hui, ce droit nous est dénié, mais nous pouvons ensemble en faire une réalité. Voilà ce dont parle ce texte. Je suis un être humain qui aimerait qu'on ne s'adresse pas à lui en tant que madame ou monsieur. Je préfère user de pronoms de genre neutre pour me définir. Je suis une personne qui se trouve face à une difficulté presque insurmontable lorsqu'on lui demande de cocher un F ou un M sur un papier administratif. Je n'ai pas de problème d'être née avec un corps de femelle biologique. Et je ne m'identifie pas plus à un sexe intermédiaire. Seulement, je ne me sens pas de porter les concepts occidentaux dominants de ce à quoi devrait ressembler une femme ou un homme. Et cette réalité a gravement infléchi le déroulement de ma vie. Je vais vous donner un exemple pratique. De décembre 95 à décembre 96, je me suis trouvée en train de crever d'une endocardite, une infection bactérienne qui se loge et prolifère dans les valvules du cœur. Un simple examen par culture des germes de mon sang aurait immédiatement révélé l'origine de mes terribles accès de fièvre. 8 semaines d'injections permanentes, d'antibiotiques en intraveineuse, auraient éradiqué jusqu'à la dernière souche de bactéries dans les circuits de mon cœur. Cependant, ce que j'ai expérimenté fut une telle haine de la part de certains toubibs que j'ai failli mourir. Je me rappelle que tard, un soir de décembre, mon amant, Te, et moi sommes arrivés aux urgences d'un hôpital en pleine tempête de neige. J'avais plus de 42 fièvres, et celle-ci continuait à grimper, cependant que ma pression sanguine cognait dangereusement haut. Le personnel m'a immédiatement mis sous appareil de contrôle et s'est mis en devoir de faire tomber ma fièvre. Le médecin de garde commença à m'examiner physiquement. Lorsqu'il se rendit compte que mon anatomie était biologiquement femelle, il me renvoya un rictus qui en disait long sur ce qu'il pensait. Ne me quittant pas des yeux, il s'approcha d'une infirmière qui était assise devant le tableau des instruments et se mit à lui tripoter le cou et les épaules. Il lui parla de sexe pendant plusieurs minutes. Après cette démonstration appuyée de sexualité dite normale, il me dit de m'habiller et quitta la pièce en faisant voler la porte. Encore dans le coltard, je me débattis pour arriver à enfiler mes habits et pour arriver à me rendre compte de ce qui venait de se passer. Le médecin revint lorsque je fus habillée. Il m'intima de quitter l'hôpital et de n'y jamais remettre les pieds. Je refusais. Je lui dis que je ne m'en irais pas tant qu'il ne me dirait pas pourquoi ma fièvre était si haute. Il me rétorqua. C'est parce que tu es complètement tordu que tu as de la fièvre. La façon dont m'ennuie ce médecin, qui s'en prenait à moi en un moment où j'étais malade de manière catastrophique, aurait pu me coûter la vie. Le certificat de décès aurait porté « endocardite ». Mais en toute logique, il y aurait dû avoir écrit « fanatisme ». Alors que ma partenaire et moi, nous fourrions dans une voiture glaciale, devant la porte des urgences, encore sous le choc de la haine de ce toubib, je me demandais combien de gens avaient ainsi été privés de secours médicaux, en étant gravement malades. Certains, certaines, en fonction de l'écriteau d'apartheid, blanc seulement, appendu à la porte des urgences, ou d'autres à cause des lésions bien visibles de sarcome de Kaposi qui faisaient fuir le personnel loin de leur lit. Alors là, juste pour expliquer, le sarcome de Kaposi, en fait, c'est au début de l'épidémie de sida dont les causes n'étaient pas encore bien connues, mais qui étaient vues, enfin voilà, comme une maladie, donc on savait qu'elle était contagieuse. Et surtout, c'était vu comme une maladie sale que les PD véhiculaient. Et ben, y a un cancer de la peau qui était nommé sarcome de Kaposi et qui a souvent été remarqué dans les affections opportunistes qui se déclenchaient lorsque le sida avait déjà été affaibli par le système immunitaire. Et du coup, c'est devenu... on parlait de cancer gay. C'était devenu le signe de cette maladie qui épouvante et dégoûte toujours, quoi. Enfin, dans le truc de maladie stigmatisante. Bref, je reprends. Je me souvenais d'une dartre qui ne voulait pas guérir, pour laquelle ma mère, dans les années 50, dut aller et retourner chez le docteur sans cesse. Je me souviens que celui-ci finit par lui donner une ordonnance pour du Valium, parce qu'il avait décidé que c'était une hystérique. Lorsque ma mère finit par aller voir des spécialistes, ceux-ci lui dirent que le cancer avait déjà atteint son cerveau. Le fanatisme lève son tribut sur la chair et sur le sang. Et si on les laisse inquestionner, sans les défier, ces préjudices entraînent un climat empoisonné pour nous toutes, tous. Chacun, chacune d'entre nous a un enjeu dans la revendication que chaque humain ait droit à un travail, à une protection, à la santé, à la dignité, au respect. Et donc maintenant, on va écouter un morceau du Tigre.
Qui s'appelle Viz, qui est extrait du dernier album donc du Tigre, et qui parle en gros de la visibilité Gwyn, et plus particulièrement de la visibilité Butch. Alors on va du coup pas mal en parler ce soir un peu. Butch, c'est un terme anglo-saxon qui désigne en gros les lesbiennes qui se réapproprient des caractéristiques masculines, dites masculines. En français, on a pu appeler ces lesbiennes-là des Jules ou des camionneuses. Enfin, c'est un peu ces termes-là. Oui, c'est principalement ces deux-là, Jules, camionneuse, et plus péjorativement, il y avait Omas, enfin, des termes... Voilà, et donc Butch, c'est le terme anglo-saxon qui donc...
Et qui l'a réapproprié du coup dans ce morceau et par beaucoup de Gwyn Butch comme une identité qu'elles affirment.
Toujours sur Dégenré, l'émission féministe pour déranger sur Radio Kaléidoscope 97FM, et ce soir nous explosons le genre.
Et alors on va continuer avec un autre texte, toujours de Leslie Feinberg. Cette fois-ci en fait c'est une fiction, un roman qui s'appelle Stone Butch Blues, qui a été publié en 1993 et malheureusement qui pour l'instant jamais été traduit en français. Il existe en anglais, en allemand, je pense qu'il est traduit dans d'autres langues, mais pas encore en français parce que, bon voilà, je crois qu'il y a des gens qui croient qu'il n'y a pas de lectorat pour ce genre de roman. Voilà, si vous lisez l'anglais, n'hésitez pas, hein, c'est très bien. Il s'agit donc d'une fiction qui est fortement inspirée de son autobiographie. Et en gros, elle raconte la vie de Jess, qui est une enfant d'une famille de classe ouvrière à Buffalo, dans l'État de New York, et dès son enfance, en fait, elle ne se sent pas comme les autres, elle est assez rejetée aussi par ses parents. Et à 15 ans, elle se barre de chez ses parents et elle vit dans un milieu en fait de lesbiennes, butch et femme. Alors Marina a déjà expliqué un peu ce que ça recouvre, ce terme butch. Et butch, c'est les lesbiennes qui s'emparent des codes masculins, et puis femme, c'est des lesbiennes qui se réapproprient. Des codes plus féminins, et c'est des repères identitaires qui, notamment à l'époque où joue le bouquin, donc dans les années 50-60, en fait, ont très très fortement marqué la vie du mouvement lesbien aux États-Unis, même si, ils sont encore assez prégnants aujourd'hui. Et donc, Jess, se retrouve dans ce milieu-là elle est adoptée dans ce milieu qui est surtout dans des bars. Ils se retrouvent le soir et pour gagner leur vie, les butch travaillent souvent à l'usine et les femmes dans la prostitution, puisque c'est aussi une question de classe sociale, qui se retrouve là en tout cas. Et en fait, ce mouvement est très fortement réprimé, puisque par les lois aussi, il y a par exemple, c'est illégal en fait de ne pas porter au moins 3 pièces de vêtements féminins si on a un corps femelle. Et les butch qui sont par exemple en castard cravate, déjà ça juste c'est illégal. Mais aussi la répression, elle est très très violente. Il y a régulièrement, elle raconte très réalistement régulièrement des rafles de la police dans les bars où les personnes sont vraiment torturées et violées dans le commissariat. Et donc, à un moment donné, Jess, elle arrive au point où elle se demande comment elle va pouvoir survivre là-dedans. Et je vais vous lire plusieurs extraits. Tu te souviens que je t'ai parlé de Al, une butch, et de Jacqueline? Elle haussa les épaules. Teresa, peu à peu, je crois que je suis à bout, moi aussi. Teresa me regarda. Elle m'apparut à la fois calme et affligée. Yann, Grant, Ed et moi avons parlé presque toute la nuit, expliquai-je. Il semblerait, sourit Teresa. De quoi avez-vous donc parlé? Je ne peux plus survivre en tant que il, elle. Juste une petite remarque. Il, elle, c'est le mot qu'elle utilise pour parler d'elle-même ou d'autres personnes butch. Je ne peux pas continuer la lutte plus longtemps. Je n'y arrive pas. Teresa me tint plus fermement enlacée. Elle ne dit pas un mot. On a parlé de peut-être prendre des hormones mâles. J'ai pensé que je pourrais peut-être essayer de passer pour un homme. J'attendis que Teresa dise quelque chose. Je l'entendais, respirer profondément et régulièrement. Je caressais son épaule et son bras et sentis chacun de ses muscles. Trésor, nous devons en parler, dis-je. Elle resta assise un long moment à côté de moi en se taisant. Puis elle se leva sans un mot et alla au lit. Tu es une femme, cria Teresa au petit déjeuner. Elle repoussa son assiette. Son emploi provisoire à mi-temps nous avait amené le repas sur la table. Je n'en suis pas une, criai-je en retour. Je suis une il-elle, c'est autre chose. Teresa frappa du poing sur la table avec colère. « Je suis autre. Nous sommes autres. » continuai-je. « On n'est pas juste des lesbiennes. » Teresa fronça les sourcils. « Quoi ?» J'haussai les épaules. « Rien. J'ai encore jamais prononcé ce mot. Tu le dis toujours si facilement. Mais pour moi, il sonne trop comme une injure. Je peux juste pas l'avoir à la bouche. » Teresa et moi devions malgré tout sourire. « Chérie, dis-je calmement, il faut que je fasse quelque chose. Toute ma vie, j'ai dû me battre pour mon identité. Je suis fatiguée. Je ne sais pas plus comment ça doit continuer. C'est le seul chemin que je vois qui me permette d'être moi-même et de survivre quand même. Je ne connais aucun autre chemin. » Teresa se rejeta en arrière. « Je suis une femme, Jess. Je t'aime parce que tu es une femme. Jeune fille, j'ai décidé que je ne trahirais pas mon désir en m'engageant dans un mariage avec un fermier ou avec le garçon de la station-service. Tu comprends ça ?» Je secouai la tête tristement. « Tu préférais que je ne sois pas une butch ?» Elle sourit. « Non, j'aime t'en être butch. Seulement, je ne veux pas être avec un homme. Quand bien même cet homme serait en réalité une femme. » Je levai les mains. « Qu'est-ce que je dois faire alors ?» Elle secoua la tête. « Je ne sais pas. » Un matin d'avril, tout parut soudain changer. À l'aube, les oiseaux gazouillaient devant ma fenêtre. Je me retournai paresseusement dans mon lit. Les draps étaient frais, l'air sentait bon. J'attrapai une cigarette, puis l'idée m'en dégoûta. Au lieu de ça, je décidai de prendre une longue douche. Alors que je me lavais les dents, je jetai un coup d'œil au miroir et dus aussitôt y regarder encore une fois. Une barbe dure poussait sur mes joues. Mon visage paraissait plus fin et osseux. Je quittai mon t-shirt et mon pantalon. Mon corps était maigre et dur. Mes hanches avaient fondu. À mes bras et à mes épaules, je découvris des muscles dont j'avais tout ignoré. Est-ce que les hormones stimulaient la constitution des muscles, ou est-ce qu'elles les rendaient simplement visibles? C'était là presque le corps que j'avais attendu avant que la puberté m'en amène un autre. Presque. Je pensais aux filles à l'école qui gémissaient parce que leurs seins étaient tout petits. J'avais envié la forme plate de leur poitrine. C'était maintenant à ma portée. Pendant l'hiver, j'avais économisé 1 600 $ pour la réduction des seins. Je pris une douche chaude avec plein de savon et je savourais la sensation de ma peau sous mes mains. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti chez moi dans mon corps. Ça allait bientôt changer. Il ne me serait jamais venu à l'idée que ma vie puisse un jour changer de nouveau de façon si dramatique. Ce fut très simple en vérité. Je remplis une seringue avec 1 cm³ de substance hormonale, la dirigeai vers ma cuisse et arrêtai. C'était comme si mon bras était retenu par une main invisible. Malgré toute ma bonne volonté, je ne pus pas pousser l'aiguille dans mon muscle, comme je l'avais fait des centaines de fois auparavant. Je me levais et regardais dans le miroir de la salle de bain. La profonde tristesse dans mes yeux était angoissante. J'enduisis de mousse ma barbe du matin, la raclai proprement avec la lame du rasoir et me giclai de l'eau froide au visage. Mes joues étaient encore rêches au toucher. Autant j'aimais ma barbe comme une partie de mon corps, autant je me sentais prisonnière derrière elle. Ce que je voyais dans le miroir n'était pas un homme, mais je ne pouvais pas non plus reconnaître la butch. Mon visage ne montrait plus les contrastes de mon identité sexuelle. Je voyais que je passais pour un homme, mais je ne pouvais pas moi-même reconnaître le moi compliqué sous la surface. Je regardais loin en arrière dans mon passé et songeais à la fille qui ne se retrouvait pas dans les catalogues de vente par correspondance. Je la vis debout devant le miroir dans le costume de son père, me demander si elle serait comme moi quand elle serait adulte. « Oui, lui répondis-je. » Et je songeais combien elle était courageuse de s'être lancée dans le voyage et d'avoir résisté à tous les jugements destructeurs. Mais qui étais-je maintenant? Femme ou homme? J'avais combattu longtemps et durement pour compter comme femme, auprès des femmes. Mais j'étais toujours exclue par ma différence. Je n'avais pas seulement pensé que je pourrais me cacher derrière l'apparence masculine. J'avais espéré que cela permettrait l'expression de chaque part de moi-même qui ne semble pas être femme. Je ne pouvais cependant pas ressentir cet être femme et homme. Je devenais simplement un « il », un homme sans passé. Qui étais-je maintenant, femme ou homme ? Cette question ne trouverait pas de réponse tant qu'il ne resterait que ces deux possibilités. Il n'y serait jamais répondu tant qu'elle devrait être posée. Je rencontrais ma voisine un mois plus tard. J'ouvrais ma maison lorsqu'elle ouvrit justement sa porte. Je dis bonjour avant même de l'avoir vraiment vue. Elle ne répondit pas. Son visage paraissait horrible. Une moitié en était gravement meurtrie et brillait dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ses cheveux étaient teints en rouge criard. Je constatais qu'elle avait conquis sa féminité de haute lutte. Ce n'était pas seulement la grosse pomme d'Adam ou les larges mains osseuses, c'était sa façon de baisser et de détourner les yeux quand je lui parlais. Dans la rue, je voyais chaque jour des gens qui étaient comme moi. Nous aurions pu fonder notre propre ville. Mais nous ne prenions connaissance les uns des autres que par un regard dérobé, de peur d'attirer l'attention des autres. C'était assez difficile d'être seul en public. À deux, nous aurions pu facilement nous retrouver au milieu d'un drame insupportable. Apparemment, il n'y avait pas de lieu où nous puissions être ensemble, nous comporter librement et discuter les uns avec les autres. Mais à présent, j'avais une voisine qui était comme moi, différente. Je m'assis sur le lit et me laissai tomber en arrière pour regarder le plafond. Ruth l'avait peint tout en noir, avec de minuscules clartés pour les constellations d'étoiles. Dans le coin, l'obscurité devenait plus claire et je reconnus l'ombre des arbres sur le ciel. Ruth s'allongea à côté de moi. « Ça te plaît ?»« C'est simplement incroyable. Tu m'as donné le ciel sous lequel je peux dormir. C'est l'aube ou le crépuscule ?» Elle sourit au plafond. Aucun des deux, et les deux en même temps. Ça t'inquiète ? Je fis un signe de tête hésitant. Oui, en quelque sorte. C'est ce qui me semblait, dit-elle. C'est une part de mon intériorité que je dois accepter. Je pensais que tu avais peut-être aussi à t'arranger avec ça. Je soupirai. Ruth roula de mon côté et posa sa main sur ma poitrine. Ce n'est ni l'un ni l'autre, Jess. Ce sera toujours ce moment de possible illimité qui joint les deux. Le visage de Ruth était tout près du mien. Nous nous rendîmes compte de la simultanéité de notre souffle. Elle fit lentement glisser sa main le long de mon corps, de ma poitrine jusqu'à mon ventre. Elle baissa les yeux, je me mordis les lèvres. « J'ai peur, » répondis-je à sa question informulée. « Pourquoi ? » demanda-t-elle. « Parce que je ne suis ni jour ni nuit. » Je plissai les paupières. Je savais que je la perdrais si je n'étais pas honnête. Je savais que je la perdrais peut-être si je l'étais. « Oui, dis-je, c'est en partie ça. Quelle était déjà ta théorie géométrique, deux fois plus d'ennui ?» Ruth roula sur le dos. « Je ne dis pas qu'on doit faire ça en pleine rue. » Je fixais mon ciel du regard. « Tu sais bien ce que je veux dire, mais ce n'en est qu'une partie. Pour être vraiment honnête, j'ai peur d'être avec quelqu'un qui ne soit ni jour ni nuit. Je crois qu'auprès des femmes avec qui j'étais, j'avais le sentiment qu'elles me donnaient du soutien. » Avec elle, je me suis senti plus normal qu'à n'importe quel autre moment de ma vie. Ruth se pelotonna dans mes bras. Étais-tu leur aube ou leur crépuscule ? Je souris tristement. Au début, j'étais leur aube. À la fin, j'étais leur crépuscule. On soupira toutes les deux. Veux-tu entendre encore plus de vérité, Ruth ? Quelque part en moi-même, il y a un endroit où je n'ai jamais été touchée. J'ai peur que tu me touches là. Et j'ai peur que tu ne le fasses pas. Mes amantes femmes me connaissaient bien, mais elles n'ont jamais franchi cette limite en moi. Elles ont essayé de m'attirer dans leurs bras au-delà de cette limite, mais elles n'ont jamais été suivies. Et tu es très proche de moi. Auprès de toi, je ne peux pas me cacher. Ça me fait peur. Ruth sourit tristement. N'est-ce pas comique ? Justement à cause de cela, je coucherai bien avec toi. On resta sans parler sur le lit. Je l'embrassais sur les cheveux. Out, il y a si longtemps que je ne l'ai plus fait avec qui que ce soit. Je ne sais plus qui je suis vraiment en la matière. Mais j'ai peur que tu me laisses maintenant. On ne pourrait pas se laisser un peu de temps? S'il te plaît, reste près de moi, j'ai tellement besoin de toi. Out s'appuya sur un coude et m'embrassa sur les lèvres. J'ai aussi besoin de toi. Je pris sa main et m'étonnais de ce que ma main soit si petite en comparaison. Elle baissa les yeux tandis que j'embrassais chacun de ses doigts.
Et maintenant, du coup, on va écouter une chanson qui s'appelle I Wanna Be a Butch, et c'est une chanson des Reines Prochaines. Ce soir, nous explosons le genre. Et après une chanson sur les butch, eh bien, moi, j'ai envie de vous lire un texte d'une femme Donc on a parlé tout à l'heure de ce qu'étaient les femmes, donc des lesbiennes qui se réapproprient les codes féminins. Et donc ça, c'est un texte extrait de La question femme, qui a été écrit par Joanne Nessel et qui est paru dans un recueil de textes qui s'appelle Attirance, lesbienne femme, lesbienne butch, donc qui parle de ça. Et dans ce texte, Joanne Nessel, vous allez le voir, mais d'une certaine façon, rend hommage aux femmes qui, elles aussi... quelque part rompe avec le genre, enfin vous verrez. Je suis une femme depuis plus de 25 ans. Je sais ce que provoque actuellement cette affirmation. Beaucoup de lesbiennes me rejettent, comme si j'étais une victime, une femme qui n'a pas eu le choix. Mais ma vie, dans toute sa vérité, révèle une histoire fort différente. Nous, les femmes, avons contribué à maintenir notre monde lesbien uni à une époque dangereuse. Nous avons prodigué plus d'amour et de moiteur sur nos tabourets de bar et dans nos maisons que ce qu'on attend des femmes. Je n'ai pas d'outils théoriques pour expliquer comment l'amour est venu ou pourquoi l'attirance pour les femmes sombres et minces a explosé en moi et m'a rendu si timide que je ne pouvais qu'avoir l'air dur, à tel point qu'elle devait se détourner. Mais ni moi ni les autres femmes que je connaissais n'étions en sucre. Nous savions ce que nous voulions. Et c'était un exploit formidable pour des jeunes femmes des années 50, à une époque où le pouvoir politique nous serinait qu'il fallait être dans la norme, se marier, avoir des enfants. Oh, nous avions nos manières, nous nous parions, nous parfumions, nous donnions en spectacle. Mais nous marchions la nuit jusqu'à notre bar, et nous en sortions les yeux troubles au petit matin, désert, pour affronter une longue et morne semaine de faux-semblants au bureau, au salon de coiffure ou à la compagnie de téléphone. J'ai toujours su que nos vies étaient un mélange étonnant d'aventures romanesques et de réalisme.
Moi, je vais, à la suite, toujours sur cette question butch femme, vous lire un extrait tiré du livre de Pat Califia, Le mouvement transgenre, Changer de sexe, qui est un bouquin bien intéressant, si ça vous intéresse. Et du coup, là, c'est aussi une lesbienne qui donc se définit comme femme, qui parle un peu de ce rapport et des réactions des gens, en fait, quand elle est visible avec ses amantes butch. Tu portais une veste sport, une chemise blanche et une cravate. Moi, j'avais une jupe en soie, un chemisier léger, des boucles d'oreilles et un collier scintillant. Dans le wagon bondé, les gens nous ont regardés fixement lorsque j'ai posé ma tête sur ton épaule et que tu as passé ton bras autour de moi. N'est-ce pas curieux d'être habillée de façon si conventionnelle et d'attirer autant l'attention ? Quelque chose dans notre expression en public de la masculinité et de la féminité est trop intime ou trop queer. Tu peux peut-être passer plus facilement inaperçu si tu n'es pas avec moi. Un regard, et on pense que tu es gay, ou un peu androgyne. Mais quand tu es avec moi, je vois une lueur dans leurs yeux. S'il est gay, pourquoi est-il avec elle ? Pourquoi est-elle avec lui ? Si ce sont deux femmes, pourquoi ressemblent-elles autant à un homme et à une femme ? Qu'est-ce qu'ils manigancent ?
People and girls.
Donc on arrive à la fin de notre émission de Dégenré sur Explosons le genre. Et on voulait finir un peu par parler plus... en fait, du fait que le genre, enfin que l'assignation, par exemple, à être dans le genre femme, c'est donc un peu ce qu'on disait aussi au début, quelque chose de très restreint, et que c'est vraiment difficile d'en sortir, et qu'il y a des figures qui sont par exemple emblématiques de sortir du genre, comme par exemple. Cette division qu'il y a toujours dans la société patriarcale entre... où en gros, c'est divisé entre les mères, les vierges, les putains ou les gouines. Et vierge, mère, ça rentre dans la catégorie femme. Et par contre, pute ou gouine, directement, ça en sort, c'est vu comme des déviantes du genre. Et donc voilà, là, c'est un peu pour parler du stigmate de pute, mais qui est... qui touche d'abord les personnes travailleuses du sexe elles-mêmes. Et à cette occasion, on voulait quand même aussi, on en a un peu parlé toute cette année, mais rappeler qu'il y a toujours cette loi sur le racolage passif, et qui du coup est juste un prétexte pour les flics de harceler les prostituées, les foutre en prison, et particulièrement en fait qui vise les personnes travailleuses du sexe étrangères, donc sans papier, et qui est juste un prétexte pour les mettre en camp de rétention, les expulser directement, et qu'il y a des villes par exemple où c'est vraiment très très trash la situation actuellement, par exemple comme Lyon, Paris ou à Toulouse aussi, où je sais qu'il y a eu un communiqué, il y a vraiment des procès qui suivent. Ça va être vraiment dur du coup pour par exemple les associations de prévention et qui travaillent avec les personnes travailleuses du sexe de continuer à faire leur travail dans ces conditions-là.
Et sachant que quand on cite Lyon, Paris, Toulouse, c'est peut-être aussi parce que c'est dans ces villes-là qu'il y a des associations qu'on est au courant, quoi. Ça veut pas dire que dans les autres villes, il se passe pas des trucs trash dont on n'est pas au courant, parce que justement, il y a aussi personne pour le visibiliser.
Ouais, exactement.
Et aussi que ce truc de stigmate de pute, évidemment, ça touche en premier lieu les putes elles-mêmes, les personnes qui se prostituent. Mais je trouve que ça touche aussi toutes les femmes dans le fait que juste c'est considéré comme une insulte, que dès que... ce stigmate-là, il est présent, je trouve il touche toutes les femmes d'une certaine façon par son côté moral, en fait.
Oui, c'est ça, c'est d'être vu comme déviante du genre, parce que aussi bien en étant, une fille avec des pratiques hétérosexuelles, mais qui juste affiche qu'elle aime le sexe, qu'elle a envie d'avoir plusieurs partenaires, qu'elle a envie d'avoir du sexe sans amour, parce que c'est bien connu, les femmes seraient censées lier obligatoirement la sexualité au sentiment, et ben là, par exemple, c'est être des déviantes du genre, De toute façon, je pense que n'importe quelle attitude d'émancipation à un moment fait qu'on est vu comme sortant de la case femme, pas vouloir être mince, en couple avec un homme, avec des enfants, etc., fait qu'on commence déjà à sortir de cette case.
Autant dire que plein de femmes en sortent, voire la plupart, de toute façon, vu que c'est impossible d'y ressembler. Et du coup, on vous propose, pour illustrer un peu ça, un texte de Claire Cartonnet, qui est donc une travailleuse du sexe militante, et qui a par ailleurs écrit un livre qui est très bien, qui s'appelle « J'ai des choses à vous dire ». Mais ça, c'est un autre extrait, un texte qui s'appelle « T'as de la misère à aimer la pute », et je vous propose de le lire. « Je suis pute ». Je suis pute parce que je loue ma présence, mon écoute, l'image de mon corps ou bien des parties de ce corps. Mes mains, ma bouche, mon anus, mon vagin. Je suis pute parce qu'objet de tes désirs, mais aussi parce que je suis femme sujet de mes propres désirs, femme désirante. Dans ton cadre, il n'y a de place que pour les vierges épouses ou les putains et salopes. Tu ne m'as pas tellement laissé le choix, c'est vrai. Parce que femme de désir, je suis pute, et j'en ai même fait ma survie. Je suis pute et c'est bien parce que t'as besoin de moi. Dans ce système capitaliste et patriarcal qui engendre mal d'amour et misère sexuelle, on y trouve tous notre compte. Je suis le corps d'un amour qu'on prend et qu'on jette. En bout de ligne, toi et moi, on reste seuls. Je suis pute et tu me vénères et tu me méprises à la fois. Tu me couvres de stigmates et pourtant j'ai la tête haute. Tu me trouves indépendante, insoumise, révoltée même parfois. Oui, et puis après. Pour toi, psy ou travailleur social, je suis pute et tu me prêtes, comme allant de soi, une enfance malheureuse, remplie de misère et de violence, et je te dis merde. Je suis pute, et pour toi, médecin ou lologue tout azimut, je suis objet à assainir, à désintoxiquer, à désengrosser, à condomiser. Tu veux me prendre en charge, me guérir, me réinsérer dans la société. Encore, je te dis merde. C'est vrai que t'as de la misère à aimer la pute. Je t'entends et te réponds que t'as seulement oublié la femme derrière la pute. Les femmes, devrais-je dire. Je ne suis pas une, on est plusieurs. On a toutes nos histoires, nos misères, nos désirs, nos petits bonheurs aussi. T'as voulu aller trop vite. T'as oublié nos différences, notre pluriel. C'est vrai qu'au travail, la pute n'est pas une femme. La pute se prête, mais ne se donne jamais. Son essence et son corps de femme, son cœur de femme, n'est pas au travail. Sa sexualité de femme aussi est ailleurs. La pute se conforme aux désirs de l'homme, du client. Ses désirs à elle sont ailleurs. C'est vrai aussi que pour toi, client, je ne suis pas une femme comme les autres. Je te dissimule toujours mes rires, mes pleurs, mes règles, mes maux de ventre, mes débuts de grossesse, mes enfants. À toi, patron ou mac, par contre, je t'invente menstruation et migraine au moins 3 fois par mois. Vois-tu, j'ai besoin de prendre un break parfois, besoin de prendre l'air. Mais c'est vrai que mener cette double vie est souvent difficile. Le poids des mensonges se fait parfois lourd. Lourde aussi la solitude et l'isolement. Bien sûr il y a plaisir lié au travail. Plaisir narcissique, solitaire, exhibitionniste. Celui d'être choisi, acheté. Plaisir de se donner en spectacle. Plaisir masturbatoire qui s'émousse et se fait plus rare au fil du temps qui passe. Ce n'est pas là le plaisir d'une sexualité partagée. Mais toi aussi, mon ami, mon amant, mon amour, t'as de la misère à aimer la pute. C'est pourtant à toi qu'en premier lieu je m'adresse. À toi à qui je demande, je crie d'aimer et d'accepter la femme que je suis. Celle qui a envie de vivre une vie normale. Celle qui a des désirs tout simples. Celle qui a simplement envie d'amour, envie d'aimer et d'être aimée.
Voilà, c'est un texte qui est vraiment chouette.
Ouais, et on arrive à la fin de notre émission, et alors c'est la dernière avant la pause d'été de Radio Kaleidoscope, alors on vous dit au revoir et à l'année prochaine.
Et peut-être on peut vous redonner notre adresse, si jamais, email, si vous voulez nous écrire, et du coup c'est dégenré avec 2e @boom.org. Et aussi, par exemple, si vous cherchez un peu tous les livres dont on a parlé cette année, vu qu'on tient un infoshop et une bibliothèque un peu itinérante à cause des expulsions, mais vous pouvez quand même nous écrire pour avoir plus de références, etc.
Eh et bien, au revoir, bonne soirée et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Shake your dicks. Okay, how about you girls? You women? You ladies, are you with teachers? Alright then, let's try this. Are you ready? Shake your tits, shake your tits. Shake your tits, shake your tits. Boys like the lips swinging in their face. Lying back and staking in their own space. We're gonna kick it now and take your place. Come on and give us a taste. I'm not the only one with body to kill. I'd like to see just how you swing that thrill. Come on, baby, baby, use that thing. You make my panties go pink. Shake your dick, shake your dick. Shake your dick, shake your dick. Shake your dick, shake your dick. I know you all play bottom and top. I know you all like to hop box. Girls, you ready to flip it again? Keep it slow so that it never ends. Shake your tits, shake your tits. Shake your tits, shake your tits. Shake your tits, shake your tits. Shake your tits. Shake it, 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 shake it
Six.